Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Jules, cofondateur de Circulaire, et moi, Alexia Neveu, avons eu le plaisir d'accueillir Antoine Bagure, le cofondateur de Circulaire X, une start-up de l'économie circulaire spécialisée dans le réemploi, et David Tourquetil, directeur service et économie circulaire chez Boulanger. Le réemploi est un levier incontournable de l'économie circulaire et c'est autour de cette boucle vertueuse que Circulaire X a construit son modèle. Avec des solutions de revente, de rachat et un logiciel SaaS, ils accompagnent aujourd'hui des distributeurs comme Boulanger à transformer leur modèle en profondeur pour produire moins et ainsi limiter leur impact sur l'environnement. Antoine et David sont venus nous partager comment ensemble, ils font bouger les lignes d'un modèle en place depuis 70 ans, celui de la vente de produits neufs par les retailers. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir avec Jules dans ce 9e épisode des Circulaire Talks, Antoine et David. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Pour commencer Antoine, je me tourne vers toi. En préparant l'épisode, tu nous as expliqué qu'avant de rejoindre Circulaire X en 2021, tu avais travaillé plus d'une dizaine d'années dans de grands groupes dans le secteur de l'énergie. Puis tu es parti au Brésil travailler dans une start-up. Et finalement, c'est à ton retour en France que la problématique du réemploi, ce secteur, t'a intéressé plus particulièrement. Et c'est à ce moment-là aussi que tu as rencontré les fondateurs de Recommerce Group et qui t'ont fait une proposition professionnelle. Parfois, les planètes s'alignent, ça a été le cas à ce moment-là. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que Recommerce Group fait et quelle a été leur proposition à ce moment-là?
Oui, alors effectivement, Recommerce Group, c'est, alors pour la présenter très succinctement, c'est une entreprise qui est déjà actrice du monde de l'occasion depuis près de 15 ans maintenant. C'est des vrais pionniers en France et en Europe sur plusieurs verticales technologiques. C'est un groupe qui fait, il y a plus de 130, 140 collaborateurs, plus de 120 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est un groupe déjà établi. Et effectivement, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est leur proposition de vouloir accompagner le virage circulaire de la société différemment, en enrichissant la proposition de valeur du groupe. Et c'est donc à l'occasion de ces rencontres-là qu'ils m'ont confié l'opportunité de lancer la nouvelle proposition Circulaire X. Donc c'était vraiment capitaliser sur le savoir déjà d'une entreprise et en même temps accélérer, aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qui effectivement a matché avec ce que je cherchais.
Et donc tu diriges aujourd'hui Circulaire X avec un associé, c'est ça? Vous êtes deux à la tête de l'entreprise. Et est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail, de façon concrète, quels sont les services que vous proposez et à qui vous vous adressez? Quels sont vos clients?
Alors effectivement, Circulaire X, l'idée c'est de permettre à des acteurs qui sont peut-être déjà présents sur le commerce linéaire de pivoter vers le commerce circulaire en les aidant là où ça fait mal. Aujourd'hui, on constate que souvent, c'est des acteurs qui savent vendre, qui ont déjà une organisation logistique et éventuellement industrielle déjà établie, mais sur lequel il y a certains points de difficulté qui les ralentissent, en tout cas dans le virage circulaire. Et nous, on vient adresser, en fait, on va dire avec trois grandes verticales, ces points-là. Le premier, c'est la technologie. Effectivement, donc Circulaire X, c'est avant tout une plateforme SaaS en marque blanche qui permet à n'importe quel acteur de lancer son offre de seconde main. Et ça veut dire qu'on vient leur permettre de propulser une offre de rachat omnicanal sur le web, en magasin, sur des parcours croisés, de venir rapatrier le produit, de mettre une traçabilité unitaire sur ces produits qui sont rachetés pour pouvoir de bout en bout en fait piloter la seconde main. Donc ça, c'est la première verticale très tech. Cette verticale tech, elle est complétée de deux autres piliers. Le deuxième, c'est l'écosystème. Nous, on est convaincus que aujourd'hui, la France est en train et l'Europe sont en train de se transformer, mais qu'il y a plein d'acteurs déjà en place qui vont pivoter. Et en fait, il faut, plutôt que d'être en contre eux, il faut être avec eux. Et donc nous, on vient proposer à nos clients la capacité de les interconnecter avec des acteurs qui existent et qui ne font pas partie de Circulaire X, mais qui font partie de l'écosystème circulaire qu'on cherche à embarquer. Et puis le troisième pilier, qui lui est vraiment, on va dire, l'héritage de Recommerce, c'est l'expertise sur le sujet de l'occasion. Parce qu'en fait, ça fait des années, effectivement, que dans le groupe, on sait faire ce métier sur du rachat, reconditionnement et revente de produits plutôt tech à la base, mais dont plein de fondamentaux sont applicables en dehors du monde tech. Et donc on vient aider en fait nos clients à créer ces nouveaux métiers, à créer ces nouveaux réflexes, à définir la bonne gouvernance, à définir la bonne façon d'internaliser ce nouveau business. Et donc avec la tech, notre écosystème et l'expertise qu'on propose, on essaye d'être, de faire en sorte que nos clients se lancent correctement et avec, une, avec un objectif de rentabilité, puisqu'on cherche effectivement pas à aller sur des sujets où on va faire du verre pour faire du verre, mais où on va vraiment faire du circulaire pour faire du business.
Et donc tu parles de tes clients, des structures, des entreprises bien installées comme Boulanger. Aujourd'hui, il y a d'autres du coup retailers avec lesquels vous travaillez ?
Alors oui, on a eu la chance de démarrer assez vite avec des très grands. Effectivement, Boulanger en fait partie. On a lancé également Leroy Merlin qui cherche à être un des acteurs majeurs du reconditionnement des produits de bricolage et de jardin. Et puis on a également accompagné, on accompagne encore Decathlon dans la transformation circulaire qui l'opère sur le secteur. Donc on est, c'est une de nos particularités, c'est qu'on est capable d'adresser différentes verticales, différents secteurs, que ce soit de l'électroménager à la perceuse et en passant par la parka d'escalade. Donc on est vraiment transverse, la plateforme elle vise vraiment est agnostique et en revanche elle va venir pour telle typologie de produit adresser un peu spécifiquement ce produit là en particulier sur la logistique ou sur des choses comme ça ou sur le traitement voilà. Mais donc on travaille effectivement de concert avec des très gros et puis on a plein d'autres comptes gros et moyens en cours de lancement.
Super, vous allez nous expliquer d'ici peu, notamment avec toi David, de façon, pareil, une illustration un peu de ce travail que vous faites ensemble. Avant ça, je me tourne vers toi Jules, en tant qu'expert de l'économie circulaire, est-ce que tu as peut-être des chiffres à nous donner pour nous rappeler ce que représente le réemploi aujourd'hui en France par rapport aux autres boucles de l'économie circulaire ?
Écoute Alexia, je te propose de commencer par une petite définition déjà du réemploi. Alors si on part de la définition de l'ADEME, ça correspond à toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés à nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Bon, pour simplifier, le réemploi finalement ça va permettre de donner une nouvelle vie à un produit qui aura donc le même usage que son usage précédent. Un grille-pain qui reste un grille-pain, une bouteille en verre qui reste une bouteille en verre. Et le gros avantage évidemment c'est que ça permet d'allonger considérablement la durée de vie. Alors sans rentrer dans trop de détails techniques, on parle souvent de réemploi et de réutilisation. Il y a une différence juridique à la réutilisation quand le produit passe par un statut de déchet puis ensuite qu'il a une étape de reconditionnement et qu'il est réutilisé, on parle de réutilisation. Souvent les deux viennent ensemble. D'ailleurs ce serait intéressant de voir comment CircularX adresse ces sujets là mais du coup cette étape pouvant être une étape de lavage ou autre qui va permettre d'assurer la sécurité, fiabilité et hygiène d'un produit. Pour te répondre, le réemploi, c'est une boucle prépondérante de l'économie circulaire, d'où malheureusement on s'est écarté. Hein, finalement, on faisait appel à beaucoup de réemploi pendant des centaines d'années. Et avec l'arrivée de la révolution industrielle et notamment l'arrivée du plastique à usage unique après la Seconde Guerre mondiale, le plastique étant cher, hyper variable et technicité fantastique, on a commencé à s'habituer malheureusement à passer sur de l'usage unique et à ne plus réemployer avec tous les aspects culturels et de process que ça implique. Et donc, peu à peu, on s'est écarté du réemploi pour utiliser l'usage unique ou utiliser d'autres boucles de la circularité. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on parle de l'impact sur les emplois, il y a une grosse corrélation entre le réemploi et les emplois. Pour 10 000 tonnes de déchets, il y a un seul emploi qui serait créé pour une mise en décharge, 3 pour une incinération, 31 pour du recyclage, et 550 pour de la réutilisation et du réemploi. Donc on voit que quand on passe sur des process de réemploi, en plus, on va avoir un gros impact social avec de la création d'emplois locaux. Et maintenant, si on fait un zoom sur l'électroménager, qui va être notre sujet d'aujourd'hui, évidemment, on peut penser à l'impact hein, de ces appareils. C'est des appareils qui sont quand même techniques, qui vont demander une grande quantité de matières premières. Si on prend une machine à laver, par exemple, d'environ 80 kg, il y a 37 kg d'acier à l'intérieur, 18 kg de béton, 13 kg de plastique, 2 kg d'aluminium, etc. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer 80 kilos de machines à laver, on a besoin de plus de 2 tonnes en fait, de matière qui va être mobilisée tout au long de la chaîne. Donc en fait, on a tout intérêt à ce que ces produits qu'on va créer, ils restent dans la boucle le plus longtemps possible sans qu'on ait à les enterrer, les brûler, voire même de les recycler. En 2020, en France, on a 850 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont été collectés. 77% d'entre eux qui sont recyclés, le reste étant donc malheureusement incinéré ou enfoui. Et le but, ça va être de raccourcir les boucles et justement de passer sur des boucles beaucoup plus courtes de réemploi. Et pour terminer, on a un cadre législatif qui est propice, puisqu'on a la loi AGEC anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui a été promulguée en 2020, qui vise justement à allonger la durée de vie des produits et leur durée d'usage notamment. Et du coup, lié à ça, il y a une obligation pour les fabricants d'équipements électriques et électroniques en matière de réemploi et de réutilisation. Il y a notamment des fonds qui sont en train d'être débloqués par les différents éco-organismes, notamment écosystèmes, pour favoriser le développement du réemploi. Et grâce à ce dispositif, le but, ça va être d'atteindre des taux de réemploi beaucoup plus importants sur le sujet. Donc juste pour clôturer, le réemploi, c'est une des meilleures boucles de la circularité puisque c'est une boucle extrêmement courte qui malheureusement est aujourd'hui encore assez peu utilisée, mais en réel développement, elle peut amener des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.
Super. Et peut-être pour réagir, Antoine, par rapport à ce que Jules vient de dire, et notamment au démarrage sur la distinction qui peut être faite entre le réemploi et la réutilisation, est-ce que du coup, tu as un mot à ajouter sur ce point-là ?
Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui d'ailleurs qu'on voit au quotidien en termes de solutions ou d'entreprises qui viennent adresser le marché. Nous, c'est vrai que notre conviction, c'est que plutôt on qualifie le produit et on évite de lui donner une étiquette de déchet, plus on a de chance en fait de lui donner une suite vertueuse. Donc nous, on fait vraiment la promotion des parcours où on se met à la place du client et où très tôt on essaie en fait de lui donner une valo sur son produit, en tout cas de faire en sorte que le produit ne passe pas par l'étape de déchet. C'est beaucoup plus difficile quand le produit a vraiment une étiquette de déchet et où potentiellement il a été mis dans une benne, etc. Parce qu'on vient dégrader en fait l'état du produit par rapport à un état initial. Et là, pour après, pour remonter la pente, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment réemploi first.
David, donc je me tourne vers toi maintenant. De ton côté, tu es directeur service et économie circulaire chez Boulanger. Avant de nous raconter en détail les rouages de votre collaboration avec Circular X, est-ce que tu peux nous dire déjà en premier lieu qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition que Circular X vous a faite ?
Chez Boulanger, on a commencé à réfléchir au rachat en 2021, avec un enjeu de vitesse évident pour nous, parce qu'on voit bien que l'économie circulaire se développe, et c'est tant mieux. Et pour ça, on a un enjeu de vitesse parce qu'on est convaincu que demain, avant de commencer par acheter un produit neuf, on se fera racheter son produit. Donc ça existe déjà beaucoup entre particuliers. Ça existe moins avec des tiers de confiance que nous sommes. Et nous, nous voulons préempter ça. Et donc évidemment, Circularix, on voulait aussi démarrer par le smartphone. Qui est le marché le plus mature, parce qu'il y a une valeur résiduelle après le premier usage qui est supérieure aux autres produits. Donc c'était aussi un enjeu de vitesse de commencer par le smartphone. Et en fait, Circularix avait développé la techno qui pouvait nous aider en pouvant s'appuyer sur l'expertise sur ce marché du smartphone de Recommerce Group. Donc on s'est rapidement tourné vers eux pour ces raisons.
Et je rebondis aussi sur ce que tu dis par rapport au fait que, en effet, c'est un usage, le réemploi, qui était bien installé entre particuliers. Et c'est important, et plus qu'important aujourd'hui, c'est essentiel que des entreprises comme la vôtre s'engagent. Donc c'est un signal fort aussi sur une envie de transformation profonde.
Oui, on apporte plusieurs niveaux de garantie. C'est d'abord une garantie d'avoir le rachat au bon prix. Et puis ensuite, il y a des enjeux de sécurité également. C'est pas si simple de rentrer en relation avec quelqu'un pour faire racheter un produit d'occasion. Et donc à partir du moment où un commerçant qui a 70 ans d'histoire derrière lui vous rachète un produit, vous savez que ce sera au bon prix, dans des bonnes conditions de sécurité et de transaction.
Et David, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste le partenariat que vous avez développé avec Circularix ?
Oui, ça fait 70 ans qu'on vend des produits et qu'on les répare aussi, mais qu'on les vend. Et en revanche, ce sujet du rachat est tout nouveau pour nous. Ça veut dire donc inventer de nouveaux parcours. Dès le départ, on souhaitait qu'il soit omnicanaux, qu'un client puisse se faire acheter un produit en magasin ou sur le web. Et donc le premier sujet, c'est un sujet de construire des parcours, et donc d'IT, de développement, etc. Le deuxième, c'est d'avoir une brique d'Argus pour pouvoir savoir à quel prix on rachète un produit, et ensuite de pouvoir le rattacher à des flux pour l'envoyer vers un repreneur. Et avoir la traçabilité qu'évoquait Antoine tout à l'heure, parce que chaque produit qu'on rachète à un client est un produit unique, et donc on doit en assurer une traçabilité qui est unique. Si on avait dû construire en interne toute cette partie-là, on aurait mis beaucoup, beaucoup de temps, et c'est là où intervient l'enjeu de vitesse dont je parlais tout à l'heure. On peut s'appuyer sur une expertise à la fois technologique, mais aussi on travaille beaucoup ensemble pour améliorer nos parcours, pour améliorer à la fois le parcours pour le collaborateur, mais simplifier aussi la vie du client. Et donc il y a un échange réciproque de best practice pour pouvoir faire progresser l'outil, parce que nous connaissons très très bien les clients, et Circularix connaît très très bien toute cette boucle du rachat jusqu'au reconditionné. Donc c'est un enrichissement mutuel.
Et peut-être juste avant de rentrer dans plus de détails justement sur la collaboration concrète, est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans quel type de stratégie plus globale RSE ce partenariat s'inscrit ?
Alors, elle est très très large. Donc sur la RSE, sur le volume 1, on a d'abord chez Boulanger une politique d'inclusion extrêmement forte, avec par exemple la maison Boulanger dans les quartiers nord de Marseille, avec des ateliers qu'on appelle « Trouve ta fibre », pour que des jeunes qui sont éloignés de l'emploi puissent découvrir les métiers de la réparation. Parce que pour reconditionner, évidemment, il faut pouvoir aussi réparer. Et puis, on a besoin de réparer des produits pour faire durer. Et puis, d'un point de vue environnemental, on n'aurait pas assez toute la longueur de ce podcast pour pouvoir détailler tout ce que nous faisons. Mais en gros, chaque fois qu'on va pouvoir diminuer l'impact, soit en sélectionnant des produits éco-conçus, qui soient plus réparables, eh bien, on va le faire. Ensuite, on a un sujet qu'on connaît bien, qui est faire durer. On le fait depuis la naissance de Boulanger, puisque Boulanger a été créé par deux frères, Bernard et Gustave. Donc Gustave était le technicien, donc dès le départ il y avait un technicien qui pratiquait ce métier, et donc on a développé beaucoup d'offres autour de la réparation, l'abonnement à la réparation avec Boulanger Infinity par exemple. Et nous avons également, dans le cadre de la loi AGEC que Jules évoquait tout à l'heure, souhaité être labellisé Qu'elle y répare, pour faire bénéficier à tous nos clients du bonus réparation, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et enfin, il y a aussi toute la partie de récupération de matière. On a une opération qu'on appelle la Big Collect depuis au moins 4 ans maintenant, qui incite les Français à nous ramener les produits quand ils sont hors d'usage. Et comme le disait tout à l'heure Antoine, on doit aussi travailler nos process pour que, quand on reprend un produit, il soit plus traité comme un déchet, mais comme une nouvelle valeur. Parce que soit on va pouvoir le réemployer, soit on pourra le récupérer pour récupérer de la matière demain, on en aura besoin. Il y a certaines matières dont la raréfaction et la fin est annoncée de manière très proche.
Je pense que c'est important ce que tu dis sur la complémentarité qui peut exister entre différentes typologies d'économie circulaire. Quand tu veux faire de l'occasion, tu as besoin que tes produits soient éco-conçus, tu as besoin qu'ils soient réparables. Et en fait, en général, tu vois une forme de porosité et de complémentarité justement entre les nouveaux modèles d'affaires circulaires dont on parle souvent, l'occasion-occasion, et souvent avec l'éco-conception comme une sorte de condition sine qua non, ou en tout cas de quelque chose qui va fortement aider ce type de fonctionnement, tant d'un point de vue environnemental qu'économique.
Oui, complètement.
Le 4 avril dernier, vous avez lancé un POC avec Circular X concernant une solution de rachat de gros électroménagers à Lille et à Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce test et quels ont été les premiers résultats de ce POC ?
Alors, c'est un peu tôt. De manière plus globale sur l'extension du périmètre métier, nous travaillons de concert là aussi avec Circular X pour avoir une roadmap commune, pour imaginer quels sont les cas d'usage les plus intéressants pour les clients. Et dans ceux qu'on a commencé à faire il y a quelques temps, il y avait le robot de cuisine, parce qu'on peut avoir envie d'en changer après quelques années d'utilisation. Mais le robot est un produit qui a encore une belle valeur après utilisation. Et sur le gros appareil ménager, il y a un cas d'usage qui est évident. Par exemple, quelqu'un qui a une cuisine posable, qui change de cuisine et qui passe avec de l'électroménager encastrable, il se retrouve à devoir changer son lave-vaisselle, son four, sa gazinière, etc. Et donc, on a souhaité proposer le rachat dans ce type de cas de figure, mais pas que. Effectivement, sur Lille et Nantes, et nous avons également ouvert Bordeaux tout récemment, puisque c'était fin de semaine dernière. Donc, nous avons 3 villes en France et nous souhaitons couvrir tout le territoire. C'est un peu tôt pour tirer des enseignements, parce que nous avons démarré il n'y a que 3 semaines. On en tire pour le moment 3. Il y a une vraie attente des consommateurs pour se faire racheter leurs produits. Ça, c'est la première. La deuxième, ça nécessite que nous ayons une chaîne de traitement logistique, de reprise, de livraison extrêmement efficace et locale. Et le troisième enseignement, c'est que dès que nous mettons des produits reconditionnés dans le rayon électroménager en vente, la rotation est extrêmement forte. La première motivation d'ailleurs des clients, c'est une motivation liée au pouvoir d'achat avant qu'elle soit environnementale.
Et avant de te redonner la parole, Jules, Antoine, de ton côté par rapport à ce POC, est-ce qu'il y a eu justement aussi des enseignements, même si c'est tôt, de votre côté qui sont intéressants à nous partager ?
Alors nous effectivement on travaille de concert avec Boulanger, et c'est formidable de pouvoir ensemble créer les parcours de demain. C'est vrai que nous on a un enjeu qui est de construire une plateforme SaaS qui est donc aussi qui a vocation à être déployée chez d'autres utilisateurs. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient construire des parcours que nous on veut malgré tout au standard, et qui permettront à l'économie circulaire en fait de vraiment scaler, hein, qu'elle n'ait pas lieu que chez Boulanger, mais qu'elle ait lieu partout. Mais on s'enrichit des enseignements effectivement ensemble, tout en permettant à Boulanger effectivement d'être un des pionniers sur ce sujet-là. Nous nos enseignements, ils sont en fait notre plateforme. Progressivement, on se rend compte qu'elle prend aussi deux directions technologiques. La première, c'est effectivement capter le produit et avoir ces parcours omnicanaux qui permettent j'ai mon produit avec moi, on vient le chercher chez moi, je viens le déposer, etc. Mais aussi d'aider les distributeurs comme Boulanger dans les gestes qui se voient pas, dans les gestes de back-office, en atelier. Et on développe aussi, effectivement, on a développé des fonctionnalités autour de ça pour pouvoir, enfin que le parcours utilisateur, mais des collaborateurs Boulanger soit aussi le plus efficace possible, puisqu'il y a un vrai sujet autour de la rentabilité, il y a un sujet au fait de faire en sorte que l'économie circulaire se soit rentable. Et donc nous, on veut que dans les opérations internes de Boulanger, il y a un côté coût qui soit vraiment regardé. Et donc voilà, c'est en termes d'enseignement, on va regarder aussi ensemble dans les prochains mois et prochaines semaines en quoi ce volet fonctionnel qu'on a déployé, il permet à Boulanger d'en faire une activité rentable aussi.
Je voulais juste revenir, David, sur quelque chose que tu avais dit sur les taux de rotation, que je trouvais extrêmement intéressant, où justement, on se rend compte, et je sais que Decathlon a fait les mêmes observations sur certaines de leurs marques, que le fait de pouvoir mettre des produits d'occasion, du coup, à des prix plus faibles, hein, comme tu le disais, permettait d'avoir des taux de rotation qui étaient excellents, et donc permettait d'avoir un taux d'occupation et un taux de stockage plus faible, et que c'était aussi extrêmement intéressant d'un point de vue business, en plus de l'impact environnemental. Je trouvais ça vraiment bien de le dire. Et du coup, j'en profite pour te poser une question. Je sais que pour des retailers, c'est parfois compliqué, hein, de choisir entre location, réparation, seconde main, et que ça peut varier en fonction des typologies de produits, en fonction aussi de pas mal d'aspects. Donc, j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous faites ça chez Boulanger. Donc, comment vous choisissez tel produit pour tel modèle d'affaires circulaire finalement. Et ensuite, comment potentiellement vous arrivez à même aider les vendeurs à hiérarchiser ou en tout cas à orienter les clients vers la bonne.
Il y a beaucoup de sujets dans ta question. Le premier, c'est évidemment dans la sélection du produit. On ne va pas avoir la même sélection pour un produit dans l'économie circulaire au global. Par exemple, un produit qu'on voudrait louer, reconditionner, relouer, reconditionner. Évidemment, il faut faire en sorte, et c'est tout le côté vertueux de cette économie circulaire, c'est que le produit soit durable, soit réparable facilement. Donc, on ne sélectionne pas encore aujourd'hui. Si la question, c'est est-ce qu'on sélectionne spécifiquement des produits à la vente ? On est sélectionneur d'offres, donc on sélectionne des offres produits et services qui répondent à un besoin d'un client. Mais après, il est certain que quand on imagine un produit dans l'économie de la fonctionnalité ou dans l'économie circulaire, forcément, on doit l'imaginer plus durable. Pour ce qui est des vendeurs et d'orienter le consommateur vers tel ou tel type de solution, nous, on a une approche inverse qui est d'écouter les gens et leurs besoins, parce qu'en fait, avec tout ce développement et la prise de conscience globale qui est en cours, un même consommateur peut avoir envie d'acheter son ordinateur tout neuf, de louer son smartphone et d'acheter un lave-linge reconditionné. Et nous devons être capables d'adresser tous ces clients-là en même temps, en tout cas à ce stade. Et c'est toute l'écoute du client et de son besoin qui va nous permettre de répondre à ses attentes. Et donc notre sujet, c'est de conduire un panel d'offres, produits et services qui soit le plus large possible pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Et évidemment, travaillant dans le temps au développement d'un chiffre d'affaires de plus en plus durable, avec des produits qui ont par exemple plutôt un label énergie A++ que des produits qui ont un mauvais label énergie. On a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement des Français dans leur consommation. On a mené par exemple, il y a quelques temps, une opération pour accompagner les clients pour qu'ils passent d'une table gaz à une table à induction, parce qu'en faisant ça, on réduit de quasiment par trois l'empreinte carbone et sa consommation d'énergie. C'est un des exemples de services que l'on peut apporter pour une consommation qui soit plus vertueuse, plus responsable.
Et si on continue du coup sur ce sujet du consommateur qui finalement est le nerf de la guerre puisque c'est lui qui est consommateur de ce que vous lui proposez, de façon concrète, en fait, soit il vient dans un magasin Boulanger, soit il est sur votre site internet, il a un achat à faire, sur le site on lui propose, voilà, pour les produits concernés la possibilité d'acheter d'occasion, voilà, et en magasin. En fait, est-ce que vous réussissez à avoir peut-être encore certains freins, ou est-ce que, enfin, quelles sont les observations aussi que vous faites côté consommateur par rapport à ces nouvelles offres que vous leur proposez?
On est encore en train d'apprendre, ouais, en fonction des catégories produits. Ce qui est certain aujourd'hui, ce qui fonctionne en tout cas, c'est de faire apparaître clairement dans le merchandising du magasin que les produits qui sont vendus dans tel ou tel rayon ou à tel endroit du rayon sont reconditionnés. Peut-être que demain, dans un rayon, il sera complètement naturel d'avoir à la fois dans une gamme ou dans un enchaînement des produits neufs et des produits reconditionnés en fonction de leur usage, en fonction de leur spécification. Mais en tout cas, aujourd'hui, on identifie, si on prend la revente d'électroménager reconditionné par exemple, le client identifie parfaitement qu'il est sur un rayon spécifique de reconditionné avec la référence au prix de marché de la référence vendue reconditionnée quand elle existe, où on observe des remises entre le neuf et le reconditionné allant de 100 à 150 euros en moyenne. En tout cas, c'est les premières observations, les premiers écarts que nous observons.
Et pour continuer sur le consommateur, est-ce que vous réussissez déjà à quantifier l'impact environnemental? Première question. Et ensuite, est-ce que vous le communiquez auprès du consommateur et quand?
Non, alors évidemment, nous procédons à nos bilans carbone, bilans biodiversité, et on a une trajectoire ESG qui est définie. On ne communique pas dessus. Ce qui est important pour nous, c'est les preuves que nous apportons dans l'offre, encore une fois, produits et services que nous apportons à nos clients. Et donc, on communique uniquement sur les éléments qui permettent de guider le choix, soit parce que la livraison est plus vertueuse, ou un indice de réparabilité est plus élevé. On était d'ailleurs parmi les toutes premières enseignes à indiquer ces indices de réparabilité, parce qu'on pense que c'est bien de pouvoir accompagner aussi les clients dans ces choix-là de manière plus éclairée. Mais nous ne communiquons pas sur le bilan carbone de l'ensemble des actions que nous menons. D'abord, je pense qu'il faut aborder ces sujets avec prudence. Et encore une fois, ce qui compte, c'est de montrer à nos clients toutes les preuves que l'on peut apporter.
Et tu parlais d'ESG tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie cet acronyme?
Oui, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Merci.
Antoine, je me tourne vers toi maintenant. Et petite question, à quel point vous accompagnez Boulanger ou d'autres partenaires sur la complémentarité justement qui peut exister entre des offres de seconde main et de location?
Nous, effectivement, on cherche avec notre plateforme technologique, on cherche déjà à adresser avec excellence, on va dire, le sujet de la seconde main et les soutenants opérationnels dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, là où, ce qui veut dire que, effectivement, nous, on n'est pas une solution qui permet de faire de la location en marque blanche, par exemple. En revanche, les briques technologiques qu'on est capable de déployer dans des ateliers et qui permettent à Boulanger de traiter des produits qui ont déjà eu une première vie pour en faire un diagnostic, les reconditionner et les préparer à la remise sur le marché, que ce soit pour une vente ou pour une nouvelle location, en fait, sont des briques qui peuvent être mutualisées avec plusieurs typologies de parcours circulaires. Il y a effectivement la location, il y a la seconde main, il y a la réparation. Donc nous, là où on cherche effectivement à simplifier l'opération des acteurs en atelier boulanger, c'est à leur proposer une brique technologique qui permette de traiter différentes typologies de produits, quel que soit le canal de sourcing. Nous, on est convaincus que effectivement, demain, ce qui va être important, ça va être d'observer le cycle, le parcours produit, autant que le parcours utilisateur ou le parcours client, et qu'un produit doit pouvoir effectivement être tout le temps dans une rotation. Si à un instant T, c'est une location ou c'est une vente en fait qui lui donne la meilleure chance d'aller vers une deuxième, une troisième ou une quatrième vie, il faut qu'il y ait des passerelles, et il faut absolument pas que le dénominateur commun, qui est l'endroit où on touche au produit et on le prépare à sa vie suivante, soit segmenté. Donc voilà, nous, c'est à ce titre-là, en tout cas, que aujourd'hui on essaye de venir aider également, effectivement, Boulanger ou les autres sur les autres modèles économiques circulaires.
En vous écoutant, du coup, on comprend bien à quel point c'est quand même une transformation structurelle de votre côté. Et ça touche aussi un pan qui concerne les vendeurs, on en parlait tout à l'heure, mais le côté incentive, c'est vrai que là, c'est un modèle qui part dans une toute autre direction que celle auquel ils étaient habitués. Du coup, de votre côté, David, chez Boulanger, est-ce que vous réfléchissez justement à une nouvelle forme d'incentive pour continuer à motiver les vendeurs?
Alors, Aujourd'hui, l'incentive d'un vendeur, que ce soit sur un produit neuf ou reconditionné, on est sur la même chose. On ne différencie pas, les vendeurs ont une commission en fonction de la solution qui est vendue au client. On ne rémunère pas encore les actes de rachat ou les autres actes de récupération de produits. Mais ce qu'on vit en ce moment, pour nous, c'est une transformation aussi profonde que dans les années 60, quand on est passé du commerce de proximité à la grande distribution. Ben là, on passe à une autre forme de commerce hybride, circulaire. Et donc, ça veut dire que les modèles économiques sont challengés. Les modes de rémunération des gens aussi. Mais là aussi, c'est des sujets qui sont nouveaux, on est en train d'apprendre et nous progresserons dans le temps. Mais pour le moment, il n'y a pas d'incentive particulière sur les vendeurs, sur les actes de retour. Mais je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, ça viendra.
Ce que tu dis, David, et je comprends que c'est un sujet de toute façon qui est exploratoire pour tout le monde, mais arriver à modifier les incentives, ça va être clé aujourd'hui si on veut vraiment transformer profondément les business models. Et Alexia, tu parles des vendeurs, mais je pense que ça doit se retrouver tout au long en fait de la chaîne hiérarchique, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que tout le monde doit être incentivé sur des modèles d'affaires circulaires et on doit être capable d'utiliser des métriques qui sont un petit peu différentes, puisque aujourd'hui tu peux pas mettre dans les mêmes cases une vente neuve et une vente en location, puisque tu vas pas avoir les mêmes chiffres derrière. Donc si tu mesures le chiffre d'affaires à l'instant T, ben c'est évidemment qu'une vente va être plus priorisée, alors que la location peut avoir des belles vertus environnementales dans certains cas. C'est pas 100% des cas, mais dans beaucoup de cas. Donc ça va être important, c'est important, et beaucoup de groupes travaillent, dont Boulanger, sur ces sujets d'incentives, afin de trouver les meilleurs incentives et financiers et environnementaux qui vont permettre à ces business models circulaires de se développer le plus rapidement possible.
Oui, ce
qui rejoint, Et c'est juste pour terminer, je suis 100% d'accord avec toi, David, sur le fait que c'est un vrai bouleversement de fonctionnement, et que du coup ça prend du temps, ça demande des changements culturels, et c'est normal qu'on soit en plein développement de ce phénomène.
Ce qui est certain, c'est que la rémunération, les incentives au sens large, elles sont toujours en lien avec les stratégies des boîtes. Et là, la circularité, c'est au cœur de nos stratégies. Donc on travaillera dans le temps pour une progression de ces rémunérations, mais c'est un élément clé de transformation d'entreprise et de business model, c'est évident.
Si je peux peut-être juste compléter pour donner une perspective au-delà de effectivement de ce qui a chez Boulanger. Nous, on parle effectivement avec beaucoup d'acteurs qui ont finalement toute cette problématique-là, qui est de faire croître ces actes en magasin. Ce qu'on constate quand même, c'est que peu importe, on va dire le secteur, et puis on a l'expérience du smartphone qui est beaucoup plus mature. Offrir ce genre de service à son client, ça permet de créer une nouvelle relation avec le client, et ça permet d'aller chercher des choses qui sont pas toujours quantifiables mais qui sont bénéfiques, que ce soit la fidélisation, la richesse de ce qu'on va pouvoir offrir au client via un acte. Il vient me revendre quelque chose et en fait derrière il avait un autre besoin auquel je vais pouvoir éventuellement répondre à cet instant T. Donc c'est vrai que je pense que ça va se construire et ça va être vertueux. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'effectivement ce soit bien expliqué et que le conseiller de clientèle en boutique effectivement il comprenne qu'il y a cette richesse de relation à nouer avec son client. Et nous, ça, on le constate, ça va être transverse probablement chez tous les magasins qui vont se mettre à faire de l'occasion. Et donc c'est bien ça qui va être gagnant, c'est-à-dire ça va être gagnant pour le consommateur parce que il aura un accompagnement et de proximité enrichi, l'enseigne parce qu'elle va pouvoir nouer ses nouvelles relations, et puis pour la planète bien évidemment.
Alors peut-être maintenant on va parler un petit peu des freins. Je pense que c'est important de bien les comprendre et de voir comment ils peuvent être levés justement. Peut-être je me tourne vers toi dans un premier temps, Antoine, c'est quoi les grands freins que tu observes quand tu vas justement parler à des nouveaux potentiels partenaires?
Ça dépend, on va dire, à quel niveau de maturité se positionne l'acteur au moment où on démarre la discussion. Il y en a qui sont... Nous, effectivement, on adresse des niveaux de maturité très divers. Il y en a qui sont en phase d'éclairage et qui envisagent peut-être de faire de la circularité. Et là, les freins, en fait, ils sont au niveau, on va dire, ils sont au niveau stratégique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vrai sponsoring, une vraie envie stratégique d'un comité de direction d'y aller? Et donc les réponses par rapport à ça, ça va être de l'accompagnement quasiment conseil, méthodique, aider à faire un BP, enfin ça peut aller assez loin. Pour des entreprises qui sont déjà plus mûres, et qui ont en fait peut-être déjà testé des choses. Et d'ailleurs, c'était le cas de Boulanger quand nos chemins se sont croisés, hein, puisqu'il faisait déjà, il y avait déjà eu des initiatives circulaires dans le groupe. Et en fait, dans ces cas-là, on voit qu'on est tout de suite on est déjà sur le comment, en fait. Le pourquoi et le quoi, il est déjà défini. Ce qui reste à définir, c'est le comment. Et là-dessus, nous, on vient, donc par exemple, puisque c'est ta question, Jules, ça va être comment justement est-ce que je vais adresser le sujet de la logistique? Ça va être à qui je vais envoyer mes produits pour qu'ils soient traités? Est-ce que je peux parfois me faire appuyer par quelqu'un qui fait partie de mon organisation et parfois, au contraire, jouer avec un acteur industriel qui est dans la zone de chalandise qui m'intéresse mais qui ne fait pas partie de mon organisation? Est-ce que j'arrive à avoir des schémas hybrides? Comment est-ce que je vais payer mon client? Comment est-ce que je vais définir mon catalogue? Comment est-ce que je vais définir mes prix? On parlait de l'Argus, effectivement. Donc nous, en fait, sur chacun de ces verticales-là, on vient apporter une réponse parce qu'en fait, rien n'est complètement écrit. En revanche, effectivement, nous, on a un niveau de maturité sur chacune de ces questions-là qui est un peu plus avancé et qui permet aussi de mettre en commun les différentes solutions qu'on voit sur le marché, puisque nous, on a la chance de parler effectivement à beaucoup d'acteurs. Et donc, c'est en venant comme ça faire des petits pas et de co-construire avec nos clients qu'on vient résoudre chacun des freins qu'on identifie.
Parfait, merci beaucoup Antoine. Bon, ça rejoint de toute façon les deux freins qu'on observe souvent sur la circularité, un frein qui est un frein culturel un peu, où il y a un besoin de changer les mentalités, et un frein un peu plus les visions court terme versus long terme. Et je rejoins ce que tu disais, hein, quand tu sens que c'est porté par le top management et que ça fait partie de la vision d'entreprise, il y a beaucoup plus de chances que les projets aboutissent parce qu'on se lance plus vers des projets moyens à long terme avec des ROI et environnementaux et financiers extrêmement intéressants, mais qui ne seront pas au trimestre, mais plus sur des années à venir. Et du coup, je me tourne vers toi maintenant, David. Ce serait quoi, selon toi, les freins que vous avez rencontrés justement pour mettre en place une solution de réemploi et la solution proposée par Circularix?
Alors nous, on est plus, on est à l'étape du comment maintenant. Hein, la question stratégique, de la volonté d'y aller, de l'intérêt d'y aller, du sens, elle est réglée au comité de direction de Boulanger depuis longtemps. Maintenant, on est dans le comment. Les freins principaux, ils sont de plusieurs natures. D'abord, c'est un nouveau geste métier pour le vendeur. Ça pourrait même être vu comme un geste supplémentaire. Donc, comme c'est un geste, mais et au-delà de toute la valeur créée qu'évoquait Antoine tout à l'heure, parce qu'on crée une nouvelle relation, parce que demain, sans rachat, il n'y a peut-être même pas de business. Donc, de toute façon, c'est pas la question à se poser. Mais vu d'un vendeur aujourd'hui, ça peut être vu comme un geste supplémentaire. Et donc, ça doit être simple et rapide. Donc on doit vraiment avoir des parcours qui soient le plus fluides possible, et ça vaut aussi pour le client. Quand il est en autonomie sur le site, il a envie de se faire racheter, ça doit aussi être simple, simple dans l'acte de rachat, ça c'est la première chose. La deuxième, le deuxième frein, qui est encore une fois un tout petit frein de comment, mais qui peut avoir de l'impact, c'est de bien estimer le produit. Un client, il va toujours trouver que son produit, il est en très bon état, alors qu'en fait, il est en bon état. Ou un vendeur, pour maximiser la valeur de reprise, va pouvoir considérer que oui, c'est un produit qui est en très bon état, alors qu'en fait, il est juste en bon état. Et donc, ça peut générer derrière de la perte de valeur, de la dérémunération, des choses qui sont un peu plus complexes, qui se gèrent bien, mais qu'il faut bien appréhender. Ça nécessite de bien former nos équipes de vente. Donc après, passer ça, il n'y a pas de frein. Il y a de l'impatience à pouvoir développer le maximum de catégories possibles là où ça fait sens pour nous.
Et maintenant, si je me focus plus sur votre partenariat, Boulanger Circularix, on parle quand même de deux acteurs quand même différents, hein, en termes de taille, hein, tout simplement, en termes d'années d'existence aussi. On sait que ce n'est pas toujours simple, que ça peut apporter beaucoup de valeur de chaque côté, mais que ce n'est pas toujours simple de nouer ce type de partenariat. Selon vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a été un challenge? Qu'est-ce que vous apprenez un peu de cette relation et qu'on pourrait extraire pour d'autres types de collaborations?
D'abord, c'est vrai, tu as raison, les deux tailles d'entreprise n'ont rien à voir. Et c'est vrai que quand une entreprise comme la nôtre décide d'accélérer, bah, ça accélère fort, on met des moyens, on investit, etc. Et il faut veiller à ne pas être dans la sursollicitation ou vraiment de dépenser aucune bande passante inutile. Donc ce qui est important, c'est de bien s'entendre sur la roadmap et de se dire, bah, voilà, cette année, on va faire tel et tel produit dans tel séquencement, pour que Circularix et leurs équipes puissent s'organiser. Et puis nous, ça nous permet aussi de monter crescendo et d'apprendre et de tirer les enseignements. Je trouve que la chose la plus importante, parce qu'on a une fluidité naturelle dans la relation, des objectifs communs quant à la circularité, aux enjeux de sens, etc. Donc ça, c'est très facile. Il faut juste bien faire attention à s'organiser en amont et à bien caler cette roadmap.
Ouais, de bien border ce cadre dans n'importe quelle collaboration d'ailleurs.
Et je dirais effectivement, enfin pour continuer dans ce que disait David, il y a, je pense, deux choses. Il y a les développements, effectivement, l'alignement de la roadmap des développements de chaque côté, parce que ça pourrait être frustrant qu'il y en ait un qui avance quand l'autre est en retard et qu'après, il y ait ce désalignement temporel, en fait, entre le travail qui est fait de chaque côté. Donc ça, c'est très important, du coup, d'être dans une vraie transparence qui, au quotidien, dans l'opération du quotidien, génère quand même, bien évidemment, des moments riches. Mais à la fin, en tout cas, il y a une vraie fierté des deux parties de franchir des jalons comme ceux qu'on a franchis en avril. Et qu'il faut qu'on fête d'ailleurs un peu plus fort, David. Maintenant qu'on l'a dit dans ce podcast, on sera obligé de le faire. Et le deuxième point, c'est effectivement au sujet de la gouvernance même du partenariat, des points de contact dont tu parlais. C'est des choses qui en plus évoluent, parce que plus le programme grandit, plus il y a de parties prenantes impliquées, et plus finalement une gouvernance qui était fonctionnelle en 2022, en 2023, il faut la revoir, parce que c'est des points de contact qui vont être différents. Donc on a vraiment ce sujet-là pour qu'il y ait un alignement à la fois vraiment au niveau très opérationnel et un alignement stratégique permanent. Je pense que ce que disait David est vrai. Il y a parfois des startups, moi effectivement, si je prends la voie de la startup, il y en a qui disent mon client il va pas assez vite parce que les cycles de décision sont trop longs. Puis après, donc ça va être la startup qui va se plaindre de l'inertie. Et puis après, ça peut être dans l'autre sens, une fois que ça accélère, être capable en tant que startup de répondre à la sollicitation et d'accompagner la vitesse, parce qu'effectivement on n'a pas les mêmes forces de frappe. Et donc nous on essaie effectivement de livrer en permanence, on est un peu plus agile, mais au bout d'un moment, on n'a pas des équipes techniques infinies. Donc c'est comme ça, en tout cas, qu'on arrive à construire une relation saine et pérenne, et qui fait que, on l'espère, on sera côte à côte dans l'économie circulaire le plus longtemps possible.
Et pour rebondir sur la collaboration, donc là, c'est finalement que le début d'une collaboration. Vous avez, j'imagine, des perspectives d'avenir. Est-ce que vous pouvez nous partager quelles sont les prochaines échéances et qu'est-ce que vous imaginez encore construire ensemble ?
Côté boulanger, si d'ici la fin de l'année, on tire des conclusions très positives de notre POC sur le gros ménager, pour pouvoir l'étendre à l'ensemble du territoire, c'est notre priorité. Et puis ensuite, on regardera quelles autres catégories et quels autres parcours on peut inventer, parce que aujourd'hui on fait du rachat, mais on peut faire du rachat dans l'achat, on peut faire des tas de choses. Et donc c'est aussi de ce côté-là qu'on aura du développement. Moi, si je devais le résumer simplement, c'est développer dans le temps le plus court possible le plus grand nombre de catégories au rachat en partenariat avec CircularX.
J'abonde, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a les catégories qui sont très innovantes, hein, comme effectivement une proposition de valeur sur le gros électroménager comme ça national, ça n'existait pas. Donc là, c'est vraiment les premières étapes, l'apprentissage. Et puis sur des catégories plus matures aussi, c'est permettre à Boulanger d'aller chercher, on va dire, des parts de marché significatives, là où jusqu'à présent, c'était les acteurs classiques, les opérateurs mobiles ou des choses comme ça qui avaient des parts. Donc aller chercher, on va dire, du volume et du volume au service des consommateurs, les consommateurs qui aiment Boulanger, c'est une enseigne pour laquelle ils ont une relation et qu'en fait ils puissent faire un maximum de gestes circulaires dans l'enseigne pour laquelle ils ont un affect.
Et Antoine, pour parler d'un autre sujet, mais qui te lie plus à Jules cette fois, avec CircularX, vous êtes membre du Club Circulaire, qui est un club qui a été créé par Circulaire, qui réunit aujourd'hui plus de 50 grandes entreprises et 50 startups de l'économie circulaire. Donc vous faites partie de ce club. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que cela vous apporte chez CircularX ?
Oui, on est effectivement ravis. Alors avant de devenir membre du club, on avait déjà beaucoup de discussions avec Jules, avec Raphaël, avec d'autres membres des équipes, parce que on est tous convaincus que c'est en étant ensemble et en échangeant et en créant des collaborations qu'on va transformer le marché. On a effectivement franchi le pas récemment de devenir vraiment officiellement membre du club, parce que Circulaire a cette capacité à fédérer qui est assez unique. Et donc pour nous c'est un peu aussi une façon de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus vite maintenant qu'effectivement on est vraiment membre du club. Ça nous permet déjà d'avoir accès à une plateforme de mise en relation très intéressante. Ça permet de pouvoir capitaliser sur la vision 360 que Circulaire a, puisqu'effectivement nous on est plutôt des experts, on va dire, du réemploi, du reconditionnement, mais qui vient s'interconnecter avec d'autres modèles économiques, et donc Circulaire peut à ce titre entre-là, à la fois, on va dire, nous aider à nous assurer qu'on est toujours dans la bonne direction sur notre stratégie, nous aider aussi à nous mettre en relation avec des partenaires qui pourraient nous aider à grandir plus vite ou plus fort, et puis potentiellement aussi vers des clients potentiels que Circulaire accompagne et sur lequel le sujet de la seconde main a émergé et qu'on puisse du coup plus rapidement en tout cas déployer nos modèles.
Très clair. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour conclure ?
Non, moi j'étais ravi de pouvoir venir parler de nos sujets circulaires avec mon ami Antoine et de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation.
Pareil, ravi de pouvoir échanger vraiment en plus en l'actualité, puisqu'on on venait tout juste de faire ce lancement, donc de le partager au plus grand nombre. Merci à toi David et à tout Boulanger, toutes les équipes de nous faire confiance. Et merci Alexia et Jules pour l'opportunité de venir mettre un peu de lumière sur ce partenariat dont on l'espère qui durera longtemps.
Merci à tous les deux, ça a été un plaisir de vous accueillir. Peut-être juste Jules, est-ce que tu as un mot avant de se quitter ?
Déjà, ça m'a fait très plaisir de parler de ce sujet. Je pense que quand on parle de réemploi, de réutilisation, on est complètement dans le vrai. Malheureusement, l'économie circulaire, pendant trop longtemps, a été associée au recyclage. En tout cas, les entreprises ont pénétré, disons, l'économie circulaire via le prisme du recyclage. Et on voit aujourd'hui que les grands groupes veulent être plus ambitieux. La loi est plus ambitieuse aussi. On commence à raccourcir les boucles, finalement. Et je pense que c'est absolument nécessaire si on veut aller rapidement vers une économie circulaire et du coup avoir l'impact environnemental escompté tant d'un point de vue CO2, biodiversité, eau, etc. Et il y a un parallèle qui a été fait avec une forme de transformation digitale. J'aime bien faire le parallèle de se dire tiens, l'économie a transité vers le digital il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on doit faire une transition circulaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en apprendre parce qu'il y a un parallèle qui peut être fait. On vient venir transformer l'entreprise de bout en bout. On doit faire un changement culturel. Il y a tous les départements qui vont être impactés. Et donc, c'est un énorme défi qui s'offre à nous. Il y a beaucoup de choses à construire, on le voit. Mais néanmoins, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les pionniers de l'économie circulaire deviendront les leaders économiques de demain. Et donc, ravi de voir des entreprises comme Boulanger s'impliquer dans l'économie circulaire et s'appuyer sur un écosystème. Je pense que c'est la dernière chose que je voulais dire. Avec des solutions comme CircularX, je pense que le pouvoir de l'écosystème dans l'économie circulaire, il est prépondérant. C'est en travaillant avec ses fournisseurs, avec des solutions externes, avec ses consommateurs, avec ses concurrents même parfois, qu'on va réussir à mettre en place de l'économie circulaire. Et c'est comme ça qu'on ira le plus vite possible vers l'économie la plus circulaire possible, avec le moins d'impact environnemental possible.
Je ne peux qu'abonder avec tout ce que vient de dire Jules.
C'est vrai, on ne pouvait pas rêver meilleure conclusion. Merci Antoine, merci David. Merci Jules, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. À bientôt pour le prochain épisode.